Ivre 7, 404-405. Cucuz, où s'acheminait Chrysostome, était une petite et pauvre ville, ou plutôt une bourgade fortifiée, placée dans une profonde vallée du Taurus, au point de jonction des routes qui conduisaient de Cappadoce en Perse et des provinces syriennes dans l'Arménie supérieure. Comme station militaire, elle n'était pas sans importance. Une garnison nombreuse et ordinairement bien choisie y veillait à la sûreté des rares voyageurs en passage et à la protection des habitants. Rien de plus désolé que ce pays, où l'on apercevait à peine de loin en loin quelques hameaux groupés autour d'une maison de maître. Quant à la ville, elle était dénuée de toute ressource, même pour les premiers besoins de la vie. Un climat insupportable régnait dans la vallée, où l'on passait sans transition d'une chaleur lourde et étouffante, température de l'été, à des froids d'hiver excessifs. Jean Chrysostome approchait de la ville, lorsqu'il vit accourir au devant de sa litière un homme empressé de lui parler. C'était Dioscorus, qui lui avait fait offrir sa maison par un de ses serviteurs, à Césarée, et qui venait en personne la lui offrir de nouveau. Dioscorus, riche citoyen de Cucuz, possédait à la ville une maison bien accommodée pour l'hiver et munie de tout ce qui pouvait combattre le froid, et près de la ville une autre maison qu'il se proposait d'habiter pendant le séjour de son hôte. Il expliqua toutes ces choses à Chrysostome, qui avait déjà accepté son offre à Césarée et se confondait en remerciements quand un second personnage intervint. C'était un envoyé de l'évêque, car Cucuz, si petite qu'elle fût, avait un évêque, lequel mettait à la disposition de l'exilé la demeure épiscopale et sa propre chambre, la seule probablement qui fût convenable pour un tel hôte dans ce modeste palais. « Je ne sais en vérité, écrivait à ce propos Chrysostome, s'il ne m'eût pas donné en sus son trône d'évêque et son église, tant cet homme se montra pour moi bon et hospitalier. Le banni que les évêques, tout au long de sa route, n'avaient guère habitué à de pareils traitements, en fut touché jusqu'aux larmes. Mais il avait promis à Dioscorus et resta fidèle à sa promesse. Tout le monde, au reste, suivant l'exemple des deux chefs de la petite cité, s'efforça d'adoucir ce que la pauvreté et la rudesse du pays avaient de cruel pour un vieillard malade. C'était à qui lui enverraient des villes voisines les choses nécessaires à son établissement, et sa porte était pour ainsi dire assiégée par les propriétaires ou leurs intendants. Il les conduisait avec douceur cette foule obligeante. « Dans ce pays où l'on manque de tout, disait-il à ses amis, moi seul, je ne manque de rien. » Son escorte le quitta après l'avoir installé. Il chargea de ses lettres pour Constantinople les deux officiers prétoriens, Anatolius et Théodorus, devenus ses amis. On était alors au commencement de septembre et la neige tardait à se montrer sur les montagnes du Taurus. Aucun froid ne se faisait donc sentir encore dans la vallée. Cette douce température, jointe à la bienveillance qu'il lisait sur tous les visages, rendit à l'exilé force et contentement. Il sembla renaître, et pour Chrysostome, les impressions morales étaient presque toute la vie. Dans le ravissement de son âme, il écrivait qu'il trouvait les hivers de Cucuz tout à fait semblables à ceux d'Antioche, et qu'il s'y portait mieux qu'à Constantinople. Cette agréable illusion ne devait pas durer. En effet, quand vers la fin de novembre, les neiges s'amoncelèrent dans la montagne et que le froid s'abattant sur la vallée, un vent glacial pénétra jusque dans les maisons, l'exilé vit Cucuz sous ses vraies couleurs. Dioscorus accourut calfeutrer sa demeure et lui enseigner avec quelles précautions il fallait se conduire vis-à-vis des hivers d'Arménie. Nous le retrouverons un peu plus tard, luttant péniblement contre cette funeste influence et reconnaissant combien avait été prévoyant le choix de l'impératrice quand elle avait envoyé dans un tel lieu un Syrien débile et malade. Une grande consolation attendait Chrysostome à Cucus. Il y trouva une de ses parentes, diaconesse de l'église d'Antioche, qui malgré son grand âge était venue du fond de la Syrie pour le voir. La courageuse diaconesse fut reçue à Cucus comme un tel dévouement le méritait. L'évêque voulut qu'elle siégeât au même titre dans son église et le reste du clergé lui montra un égal respect et un égal empressement. Sabine Yana, c'était son nom, tenait déjà un rang distingué parmi les dames illustres du christianisme en Orient. Avec la neige, la vallée devint inhabitable. Contre les bouffées d'un vent qui glaçait tout, la première précaution était de ne point respirer l'air du dehors. Chrysostome fut donc obligé de se clore hermétiquement dans sa chambre. Il y resta cloué ainsi tout l'hiver. Dans cette situation où il était privé de tout mouvement, le dégoût des aliments le gagna, puis l'insomnie opiniâtre. « Je suis allé jusqu'aux portes de la mort », écrivit-il plus tard à un ami, « et durant 2 mois, je n'ai eu de vie que pour en sentir les maux. » La solitude, cependant, diminuait autour de lui. Les amis du dehors arrivaient peu à peu, malgré le froid, les mauvais chemins et la crainte des bandits. Évécius ne l'avait point quitté. Plusieurs prêtres de Syrie, échappés au bourreau de Porphyre, avaient trouvé refuge auprès de lui. Il en attendait bien d'autres encore, retenus jusqu'à ce moment dans les geôles de Constantinople ou d'Antioche. Lorsqu'il apprit que leur prison était ouverte, il s'écria avec une généreuse confiance « Les voilà libres, ils ne tarderont pas à me rejoindre. » Le sort ne répondit point à cette sainte persuasion de l'amitié. Cependant, l'affluence se dirigea de tous côtés vers Cucus, principalement des contrées de l'Extrême-Orient. Une masse de lettres l'attendait à Cucus. Il y en arriva bientôt davantage quand on sut que le gouverneur de la ville et l'évêque professaient pour lui un attachement et un respect sincères, et qu'ainsi, sauf les hasards de la route, la correspondance avec lui était à peu près sûre. Il trouva dans ses lettres accumulées la révélation complète de ce qui s'était passé à Constantinople depuis son départ. Incarcération des évêques, ses partisans, poursuites et souffrances de ses amis, détails des procès criminels intentés pour fait d'incendie, situation de l'Église fidèle, tyrannie des schismatiques, sentiment des Occidentaux à son égard, toute chose qu'il ignorait ou qu'il n'avait apprise qu'imparfaitement pendant son voyage, soit par la rumeur publique, soit par des informations encore incertaines. À mesure que se déroulait sous son regard le tableau des événements accomplis depuis son expulsion de Constantinople, il prenait la plume et écrivait, ou plutôt il dictait à des scribes qui l'assistaient. Ainsi s'ouvrit cette immense correspondance qui devait comprendre l'histoire entière de la persécution et dont malheureusement il ne nous reste plus que 242 lettres. Aucune œuvre philosophique de l'Antiquité ne me paraît plus digne d'une admiration sérieuse que l'ensemble des opuscules adressés sous le titre de lettres et de traités par Jean Chrysostome à Olympias pendant son exil. La nature du sujet, qui présente une des plus profondes analyses du cœur humain, la beauté du style qui les faisait compter par l'Église d'Orient entre les plus belles perles de sa couronne, enfin, les événements particuliers au milieu desquels ils furent écrits et qui constituent le lien entre l'auteur et le livre donnent à ces opuscules une place à part dans les ouvrages du grand archevêque. C'est un père qui les écrit pour une fille, un ami pour une amie, victime à cause de lui de la plus injuste des persécutions. Mais quel consolateur que l'auteur des lettres à Olympias! Il parle de maux qu'il éprouve, il apaise les douleurs qu'il ressent, Il verse dans une âme qui est la moitié de la sienne, d'après ses propres théories, touchant l'amitié spirituelle, un baume dont l'effet rejaillit sur lui-même, car il souffre autant et plus encore. Dites-moi que mes leçons vous profitent, écrit-il à son ami, et prouvez-le-moi par la sérénité de votre cœur. Secouez, secouez cette cendre de tristesse qui vous aveugle et vous consume. Relevez-vous d'un fatal accablement et je serai payé de tous mes soins. Votre courage raffermira le mien et le calme de vos pensées viendra me réconforter dans mes misères. La philosophie de Chrysostome est fondée en fait sur le principe stoïcien que le mal n'existe que dans le péché et que c'est nous qui le faisons. Tout ce qui porte atteinte à la pureté de l'âme, tout ce qui la ravale et empêche son essor vers des destinées supérieures est mal. Tout le reste est indifférent comme transitoire et contingent. Telles sont les joies et les douleurs de ce monde qui n'y atteignent point l'âme. Le bien et le mal qui affectent l'âme sont seuls réels, parce qu'ils affectent une substance impérissable et la purifient ou la vilissent. Ce qui affecte le corps n'est ni bon ni mauvais, ce sont des accidents passagers comme le corps lui-même. Les stoïciens avaient déjà professé ce principe, mais comme application morale de leur système. Ils disaient à ceux qui souffrent, méprisez la douleur, méprisez les fers, la prison, l'exil, et méprisez aussi ceux qui vous les infligent sans raison. Isolez-vous d'un monde où règnent les adversités et l'injustice, et renfermez-vous en vous-même dans un moi impeccable et serein. Le stoïcisme chrétien de Chrysostome fait un grand pas au-dessus de ces orgueilleuses doctrines. Il dit aux persécutés « Souffrez, car Dieu le veut. Savez-vous s'il n'a pas lié vos douleurs à ses desseins sur l'ordre moral du monde ? Et si la persécution qui ébranle en ce moment-ci nos églises n'est pas pour elles, dans la profondeur des prévisions divines, ce qu'est la tempête pour épurer l'air vicié ? L'hiver et les frimas pour mûrir le grain sous la terre, la nuit pour raviver nos corps. Dans cette sorte de fatalisme sublime et respectueux pour celui qui ordonne et règle tout, le persécuteur devient un instrument de rigueur ou de rénovation dans la main de Dieu. Le persécuté, l'ouvrier, obéissant d'une œuvre inconnue à laquelle il travaille, sous le poids du jour et au bout de laquelle est le salaire. Il faut donc marcher le front levé dans les traverses de la vie, et non seulement avec résignation, mais avec allégresse, avec action de grâce pour la providence qui nous conduit toujours au bonheur quand nous aimons le bien. Une telle philosophie, si élevée, si forte, nous paraîtrait presque une pure théorie, une simple spéculation de l'esprit impossible en pratique, sinon dans l'élan momentané qui mène au martyre. Ce fut pourtant celle que pratiqua Chrysostome dans une longue accumulation de misère et d'injustice pendant les 3 ans de son exil. Les opuscules de l'ancien archevêque de Constantinople nous le font apercevoir sous un point de vue tout nouveau. L'évêque dominateur, dont l'orgueil et l'humeur irritable avaient soulevé tant de haine contre lui au temps de sa prospérité, nous apparaît ici comme l'ami le plus tendre, qu'une souffrance de ceux qu'il aime tourmente plus dans son exil que les aiguillons de la persécution. Le prêtre audacieux qui avait bravé 2 conciles, 1 empereur, et ce qui est plus la colère d'une impératrice, se laisse presque abattre à l'idée qu'une amie souffre pour lui. Olympias avait alors 36 ans. Et les traces de cette beauté fameuse chez les historiens du temps n'avaient point encore disparu, sans doute, malgré les austérités et les privations dans lesquelles elle usait son corps. Le spectacle de la tempête qui venait fondre sur tout ce qu'elle respectait et aimait la frappa d'étonnement en même temps que de douleur. Elle ne put voir le renversement de tous les principes, le supplice des bons, la victoire des méchants, le triomphe de la calomnie sur l'innocence, la profanation du sanctuaire laissé impuni par la justice divine, sans que sa foi naïve en fût ébranlée. Elle se demanda s'il y avait une providence qui régla les choses de la terre, ou si Dieu n'avait pas abandonné son Église. Quand elle vit les sycophantes étaler insolemment leur luxe et leur prospérité, tandis que le nom de celui que la chrétienté tout entière eût dû bénir était anathématisé dans sa propre basilique. Elle lutta en vain, par la prière, contre ces doutes qui l'effrayaient, suppliant Dieu de montrer sa justice pour soutenir la foi de ses enfants. Ces orages de l'âme anéantirent presque sa raison. Elle tomba dans un accablement moral d'où elle ne sortait que par quelques crises violentes. Ce mal affreux qui tuait l'âme et le corps à la fois et qu'à cause de cela les pères de l'Église déclaraient un piège du démon pour prendre plus aisément possession de nous-mêmes, ce mal n'avait pas échappé à l'œil pénétrant de Chrysostome. Il en avait observé les premiers symptômes dans la correspondance d'Olympias, puis il les avait vus grandir, avait essayé de les combattre, et son peu de succès lui faisait voir combien le danger était présent. « Oh, ma sœur !» s'écrit-il dans une de ses lettres. « Vous voulez mourir, je le vois bien !» Elle mourrait en effet, mais il résolut au milieu des misères et des préoccupations de l'exil d'arracher cette fille de son cœur à l'abîme où une pente fatale l'entraînait. En habile médecin, il remonte à la source du mal pour étudier les moyens de le combattre. Il vit que la tristesse d'Olympias découlait de deux sources, le désordre de l'Église qui s'aggravait de jour en jour et leur mutuelle séparation. À chacune de ces causes, il appliqua un remède différent. À la première, le raisonnement et les textes des livres saints. À la seconde, les arguments de la plus touchante affection et l'espérance d'une réunion prochaine. Il aborde donc en premier lieu la grande question des maux de l'Église dont le spectacle avait porté au cœur d'Olympias une si profonde blessure. Et il attaque alors avec force cette disposition des âmes tendres à se scandaliser. On sait que les chrétiens désignaient par ce mot l'état d'une âme qui, troublée dans sa confiance en Dieu par des incidents extérieurs qu'elle ne comprend pas, met son jugement faillible au-dessus de sa foi et se laisse ainsi détourner de la vraie voie. Cette facilité à critiquer en quelque sorte les œuvres de Dieu à placer son impression irréfléchie ou son jugement en regard des insondables desseins de celui qui a créé le monde et le fait vivre, Chrysostome la considère comme une maladie mortelle du cœur et un piège du démon, car il ne voit là qu'une révolte et une folie de l'orgueil humain. Croyez en la sagesse de Dieu, confiez-vous à sa bonté infinie et ne le jugez pas. Voilà le fond de ses préceptes qu'il applique avec de magnifiques développements à la nature, à la société humaine, à l'histoire même de la foi. Olympias, il nous l'apprend, et nous le voyons d'ailleurs par ses réponses aux lettres de la pieuse diaconesse, Olympias était doué d'un esprit sagace, nourri de la lecture des livres saints et de ce qu'on appelait alors la divine philosophie, mais assez tenace et portée vers la controverse. Chrysostome avait donc affaire à un disciple peu facile à convaincre, à un malade qui discutait ses remèdes. Aussi revient-il à plusieurs reprises sur les mêmes choses, et insiste-t-il avec une vivacité passionnée sur les plus importantes, ce qui nous a valu de lui plus d'un morceau d'éloquence comparable aux plus belles choses de l'Antiquité. Olympias objectait, comme une justification de ses tristesses, le grand nombre de ceux qui, cédant à la persécution, tombaient dans l'erreur et le schisme. « Croyez-vous donc, réplique avec énergie Chrysostome, qu'il n'y ait pas eu de disciples scandalisés en présence de la croix ? Quand les ennemis de Jésus le tenant désormais en leur pouvoir, assouvissant lentement sur lui les plus brutales vengeances, le disciple qu'il avait livré, présent à son humiliation, dut avoir un moment de triomphe qui tourna pour les autres en scandale. Et le simulacre de jugement, et la flagellation, et la royauté dérisoire, et le crucifiement, quel scandale ont-ils dû produire? Le Christ est abandonné de ses disciples. On ne voit plus autour de lui qu'attentats de la soldatesque ou du peuple, ironie, outrage, mauvais traitement. « Si tu es fils de Dieu, lui cria-t-on au pied de la croix, descends de ce gibet et nous croirons en toi. » Mais ce qui dépasse toutes les bornes de l'insulte, toutes les inventions de la perversité, c'est qu'on lui préfère un voleur, un homme de rapine et de sang. « Qui voulez-vous que je délivre en ce jour ? Le Christ ou Barabbas ?»« Barabbas !» s'écrie tout le peuple juif. « Nous voulons Barabbas, et celui-là, crucifiez-le » Fut-il jamais une mort plus ignominieuse ? Et il meurt seul, sans amis, sans disciples. C'est un voleur, compagnon de son supplice, qui le confesse au haut d'une croix. Non, jamais tous les scandales accumulés n'approchèrent de celui-là. Sa sépulture même est une aumône. C'est ainsi que la vérité, envoyée du ciel, a pris naissance sur la terre. Son passage a été environné de circonstances qui ont été l'épreuve des forts et la perte des faibles. Elle a accompli le mot divin prononcé par elle-même, « Malheur à celui qui scandalise ». La vie des apôtres, la prédication de l'Évangile n'ont pas été plus exemptes de scandales et de persécutions. Les apôtres se dispersent, ils fuient et se cachent, ils prêchent dans l'ombre, et pourtant, la religion fleurit. Elle s'étend rapidement, en vertu de prodiges qui ont signalé son berceau. Un d'entre eux descend par une fenêtre pour échapper à la mort. D'autres, emprisonnés, chargés de chaînes, ont besoin qu'un ange les délivre. Quand les puissants du monde les chassent, des pauvres, des artisans les accueillent. Ils sont entourés d'une pieuse sollicitude par des revendeuses de pourpre, des faiseurs de tentes, des corroyeurs, dans des quartiers retirés des villes ou sur les bords de la mer. Telle était la marche tracée par Dieu même dans son inénarrable sagesse. Quand Paul lui demandait le calme et la paix pour le succès de sa prédication, Dieu lui répondit « Il te suffit de ma grâce, car ma puissance éclate dans la faiblesse. Maintenant, ma pieuse et vénérée dame, continue l'auteur de la consolation, si vous dégagez les événements heureux du milieu de nos adversités, vous pourrez bien n'y pas trouver des prodiges et des miracles. Mais à coup sûr, vous y reconnaîtrez un enchaînement merveilleux de desseins qui proclament la providence. Je voudrais bien agir, me dites-vous. Mais je ne puis pas. Le mal est plus fort que moi. Je ne saurais dissiper ces épais nuages qui m'enveloppent malgré tous mes efforts pour les écarter. Illusion que tout cela, vaine excuse, car je connais l'élévation de vos pensées, la force et la piété de votre âme. Je connais la grandeur de votre prudence, les ressources de votre philosophie. Je sais enfin qu'il est en votre pouvoir de commander à cette mère furieuse de la tristesse et de ramener la sérénité dans votre cœur. Qu'y a-t-il donc à faire? Lorsque vous entendrez dire que telle église est tombée, que telle autre est chancelante, que telle autre encore est cruellement battue par les flots et menace de sombrer, que plusieurs ont un loup pour pasteur, un pirate pour pilote, un bourreau pour médecin. Il vous est sans doute permis de vous attrister, puisqu'on ne saurait voir ces choses sans douleur. Mais ne vous affligez pas outre mesure. Si pour nos propres péchés, pour les actes dont nous avons à rendre compte, il n'est ni nécessaire ni bon de trop s'affliger, à plus forte raison, est-ce inutile, fatal et même satanique de tomber dans l'abattement et le désespoir pour les péchés des autres. En dehors des causes générales qui entraînaient Olympias dans cet abîme de la tristesse, il s'en trouvait une plus particulière, toute personnelle, leur séparation. À cette cause particulière, il oppose un seul remède, l'espoir, ou plutôt l'assurance que leur séparation va cesser. Lui aussi éprouve le même chagrin de leur commune absence. Il ne le cache pas à son ami, et c'est un des moyens qu'il prend pour la consoler. Il lui conseille de méditer ses livres. Là encore, elle peut l'entendre et le voir. Puis il lui écrira de longues lettres. Il compose pour elle, ou du moins à son intention, des traités qu'elle devra relire sans cesse et à haute voix, si ses forces le lui permettent. Ainsi, il cherche à distraire du sentiment de sa souffrance par une tendre et sainte sollicitude la douce femme dont il a été le père spirituel, le guide, l'ami, et dont il est le dernier et frêle soutien dans leur vie d'épreuve. Il faut voir comment, dans une de ses lettres, la seconde, il aborde sans hésitation, comme sans voile, sa doctrine des amitiés spirituelles. « Les malheurs publics, lui dit-il, ne sont pas la seule source de vos chagrins. Je ne le sais que trop, ma chère et vénérée dame, notre séparation en est aussi une source amère. Bien que je ne sois qu'un brin d'herbe, je vous entends d'ici gémir et répéter à tout le monde « Sa parole ne retentit plus à nos oreilles. Nous n'avons plus le bonheur de recueillir ses enseignements. Nous sommes condamnés à mourir de faim, de cette faim dont parle le prophète Amos, la fin de la céleste doctrine. » Que répondre à cela? Avant tout, je vous dirai, Olympias, que si vous ne m'entendez plus de vos oreilles, vous pouvez converser avec mes livres, ce qui n'empêchera pas mes lettres, chaque fois que je trouverai un messager sûr. Mais votre vœu de m'entendre ne peut-il pas être un jour accompli, et Dieu ne permettra-t-il pas que nous nous revoyions? Pourquoi ce doute? Non, je ne doutez pas, je sais que cela sera. Je vous rappellerai alors que cette promesse ne vous fut pas faite sans raison, et comme pour vous calmer par de vaines paroles. Si le retard vous est pénible, songez qu'il ne sera pas perdu pour la récompense, pourvu qu'il ne vous arrache aucun murmure. Persuadez-vous bien, Olympias, que vous me reverrez, et que vous serez affranchi de cette séparation qui aura même produit pour vous des fruits de miséricorde. Montrez-moi votre affection en accordant à mes lettres le même pouvoir qu'à ma parole. Et vous me l'aurez montré avec certitude si j'apprends que ces lettres vous ont fait tout le bien que je désire, et quel bien! C'est que votre âme rentre dans le calme et la joie dont vous jouissiez quand j'étais près de vous. Ce sera pour moi une grande consolation dans l'affreuse solitude qui m'entoure. Si vous avez à cœur de m'inspirer un peu plus de courage, or je sais que c'est là votre vœu le plus cher, faites-moi savoir que vous avez dissipé tous vos chagrins. C'est ainsi que vous payerez de retour mon dévouement et mon amitié. Vous n'ignorez pas, vous savez, à n'en pas douter, le bien que vous me ferez et à quel point mon cœur sera réconforté si je reçois par vos lettres la certitude que votre tristesse s'est évanouie. Sous l'empire de ces douces et fermes consolations, l'âme d'Olympias se rasséréna, pour quelque temps du moins. Elle voulut vivre et revint à la vie. Nous la verrons reparaître plus tard et dans des circonstances plus douloureuses encore, car la source de ses larmes ne devait pas tarir. Cependant, les lettres se multipliaient et les visites affluaient de toutes les parties de l'Orient à Cucuz. Les provinces limitrophes de l'Arménie envoyaient nombre de visiteurs qui se hasardaient dans la montagne dès que les chemins paraissaient libres. On y voyait des laïcs, à qui il était indifférent de déplaire au gouvernement, des prêtres qui se dérobaient à la surveillance de leurs supérieurs schismatiques, des troupes de moines assurées de la tolérance de leurs abbés et quelques évêques qui mettaient la conscience et le devoir au-dessus des faveurs de cour. Il y eut même de pieuses femmes et parmi elles de très grandes dames qui projetaient une visite dans son désert dès que le printemps serait revenu. Mais il leur défendit en prétextant la fatigue du voyage et les périls de la route. Le patriarche schismatique de Cyre, Porphyre, écrivait avec colère à son complice de Constantinople « Tout Antioche est à Cucuse ». Il était plus exact de dire « Tout ce qu'il y a d'honnête dans le clergé de l'Extrême-Orient consulte notre ennemi ouvertement ou secrètement ». Chrysostome est plus que jamais l'oracle de l'Église.